une assemblée de cœur en tout cas, une église qui est mes chers et qui le restera. Tant de moments vécus ensemble, en tout cas avec certains, tant de chemins parcourus. Nous avons pour certains vieilli ensemble, à la même allure. J'aimerais juste dire que si Muriel n'est pas là, c'est pas qu'elle ne voulait pas être là et qu'elle vous boude, mais la communication entre couples n'est pas toujours là où ça marche le mieux. Et nos problèmes, on a eu juste un petit conflit d'agenda, et elle préside donc ce matin à Genève. Et donc, pour les Tononais qui veulent la voir, ils viennent le mardi, n'est-ce pas? Enfin, un des mardis, je crois. Elle est là, ce qui me permet, dans ses venues à Tonon, de toujours être informé de la vie tononaise, des joies, mais aussi des peines. Voilà, et puis je crois que vous avez aussi l'occasion, par son intermédiaire, d'avoir quelques nouvelles de notre famille, de l'explosion des naissances qui se sont déroulées ces derniers mois. Et juste pour vous donner un peu des nouvelles de nos deux jumeaux, enfin des jumeaux, je vous rassure, de nos enfants, de Norina et Joël. Donc ils sont sur le point de sortir de l'hôpital. Je pense que d'ici 15 jours, ça devrait le faire, comme on dit. Timéo, qui est celui qui va le mieux, attend son frère, Kenzo, qui doit, avant de sortir, être complètement autonome concernant l'assistance respiratoire. On peut prier encore pour ses problèmes ophtalmologiques. Il a encore des examens à subir pour évaluer un peu les dégâts et voir quel traitement à adopter. Mais au travers de cette épreuve, pour Norina, on a vu sa foi s'affermir, sa foi se consolider, sa confiance en Dieu est toujours là. Et je peux vous dire que c'est assez émouvant de voir Norina derrière la chaire et donner un témoignage pour ceux qui l'ont connue toute petite, qui l'ont vu grandir, qui l'ont vu aussi à bien des moments en crise. Voilà, s'appuyer sur le Seigneur, faire de son Seigneur vraiment son socle, son fondement. Et c'est aussi pour nous parents un témoignage pour tous ceux qui ont des enfants et qui semblent pour l'instant être loin du Seigneur, qui ont entendu l'Évangile. Souvenez-vous que si nos enfants perdent de vue le Seigneur ne les perd pas de vue et qu'il saura en son temps faire germer ce qui a été semé. C'est en tout cas notre témoignage au travers de nos enfants. Alors ce matin, je vais casser un peu l'ambiance, je le regrette un peu. Les différents chants qui nous ont été proposés célèbrent la grandeur du Seigneur, la joie, le triomphe. Mais en est-il toujours ainsi dans notre vie? Notre vie est-elle un parcours, un chemin fait de louanges, fait de victoires, jalonné de triomphes? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi c'est en tout cas pas tout à fait ça. Et me dire, vous est-il déjà arrivé de désespérer? De désespérer. Vous êtes durement éprouvé, vous vous attendiez à ce que Dieu vous arrache à votre triste condition, et Dieu n'a pas bougé. Vous l'avez appelé à l'aide à maintes reprises, avec confiance, avec foi, mais en vain. C'est alors que vous avez commencé à douter. Puis, petit à petit, vous vous êtes senti sombré. Sombré. Si cette douloureuse expérience vous rappelle quelque chose, alors sachez que vous n'êtes pas un cas à part. D'autres, et non des moindres, ont connu pareilles circonstances. Et cela est arrivé au plus grand. Jérémie, ça vous dit quelque chose? Le prophète Jérémie. Jérémie, l'immense prophète, si grand qu'on le présente comme étant la figure de Jésus-Christ. Eh bien, Jérémie a connu une période de désespoir extrême. Et une expérience de désespoir telle qu'il en a écrit un livre dont le titre est révélateur. Alors, c'est pas le titre qui va faire, qui va produire les meilleures ventes du livre. Lamentation de Jérémie. Lamentation. Pour un chrétien, comme disent les jeunes, ça le fait pas. Aujourd'hui, il faut toujours se réjouir. Marcher de victoire en victoire. Et puis, si on passe par ces périodes où l'on est désespéré, où on doute, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, c'est qu'on se sent terriblement seul. On vient au culte, et puis c'est une série de chants de louanges, et c'est bien, hein? Seulement, vous ne vous reconnaissez pas dans les chants. Vous n'avez pas envie de chanter. Ça vous est jamais arrivé, ça? Et la solitude est encore plus profonde. Lamentation. Lamentation parce que ce livre des Lamentations a été écrit dans les larmes par un géant de la foi. Par un géant dont la foi est brisée. Situons juste le contexte. Nous sommes en 587, 586 avant Jésus-Christ. 587, 586, c'est une date que les chrétiens devraient retenir pour la connaissance de l'Ancien Testament. C'est un peu comme 1515, hein, pour les Français. 587, 586, c'est quoi? Pardon? La déportation, chute de Jérusalem. Effectivement. Le peuple d'Israël, pour avoir cherché ou assuré sa protection en s'alliant à l'Égypte, Tyr, Édom, Jérusalem est tombé aux mains de l'ennemi babylonien. Et les troupes de l'empereur Nabucodonosor l'ont soumis à un véritable sac. Et son temple a été incendié, le temple de Jérusalem, ses fortifications démantelées et plusieurs centaines de citoyens sont une fois de plus déportés. Déportés. Le pays est complètement dévasté, d'où la déchirante complainte de Jérémie. Écoutez cela, parlons de Jérusalem. Elle est assise en solitaire, cette ville si peuplée. Elle est pareille à une veuve, elle qui était parmi les plus grandes, parmi les nations. Elle qui était une princesse parmi les provinces. La voilà astreinte à la corvée. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Juda est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite parmi les nations, sans trouver de repos. Tous ses persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus à la fête. Pourquoi pareille détresse? Pourquoi pareille détresse qui frappe une cité jadis élue de Dieu? La réponse est au verset 5 du chapitre 1 des Lamentations de Jérémie. À cause du grand nombre de ses transgressions, c'est pourquoi l'Éternel, écrit-il, a plongé Israël dans le chagrin, dans le chagrin. Cela nous révèle une chose, c'est que Dieu est un Dieu jaloux et qui ne veut céder sa gloire à personne et qui peut se montrer, Dieu, terriblement violent à l'encontre de ceux qu'il a tendrement aimé et qui lui ont retiré leur confiance quand ils ne se sont pas purement retournés contre lui. Je crois que c'est un rappel nécessaire pour une génération comme la nôtre qui considère que Dieu est un Dieu si foncièrement doux qu'il en deviendrait totalement inoffensif. Si Dieu aime à se présenter comme un trésor de grâce, il lui arrive aussi de se présenter comme un feu dévorant. Dévorant. Qu'on se le tienne donc pour dit, mieux vaut ne pas provoquer Dieu. Par exemple, en accordant à un autre ou à une autre chose que lui-même, l'attention, l'attachement qu'il est seul à mériter pleinement. J'aimerais aborder ma méditation sur trois points. La désespérance, ensuite un sursaut exemplaire et une vision décisive. C'est le troisième point qui retiendra plus longuement notre attention. Mais revenons tout d'abord à la douleur de Jérémie. Et j'aimerais que nous lisions ensemble dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, les versets 1 à 20. Que vous pouvez suivre sur la coupole si vous le voulez. Et je lis dans la traduction la Bible du Semeur. Voilà ce que dit le prophète Jérémie. « Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a miné et il m'a fait marcher dans les ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau. Il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans ces lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur, afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier, j'ai beau implorer, il n'écoute pas ma prière. Il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets ou un lion en embuscade. Il m'a fait sortir du chemin. Il m'a mis en pièces. Et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc. Il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec des flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de mon peuple et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe, il m'a brisé les dents en leur faisant écraser du gravier, il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Vous imaginez votre pasteur venant derrière la chaire et vous livrant tout cela? Vous serez très vite encore plus ardemment à la recherche d'un autre pasteur, n'est-ce pas? Il continue. « Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse je m'en souviens et j'en suis abattu. » Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Nous touchons, comme vous l'avez sans doute remarqué, à un désespoir extrême. Et j'aimerais juste reprendre quelques éléments que Jérémie exprime, qu'il parle, il parle en son nom propre et même peut-être aussi au nom du peuple. Il est consterné, il est abattu, brisé, anéanti. Et on choisit de le considérer solidaire de ses concitoyens. Le Seigneur, son Dieu, lui a fait connaître, verset 1, le bâton de la fureur. Verset 4, l'a frappé dans sa chair, l'a comme emmuré dans la douleur, afin qu'il ne connaisse pas le moindre répit. J'ai accompagné des personnes dans les hôpitaux où la douleur est extrême. Et où il n'y a aucun répit. Vous ne pouvez rien attendre du matin, ni de la nuit. Ils sont plongés dans les ténèbres, verset 6, lui a fait subir le supplice babylonien, verset 9. S'est comporté à son égard comme un ours ou un lion. Oseriez-vous dire ça de Dieu? la mise en pièce, verset 11, la criblée de flèches, 12 et 13, l'a explosé à la risée du peuple, verset 14. Mes amis, pour une sanction, c'est une sanction. Mais il y a pire encore, pire. Le Seigneur n'entend plus ses prières. Le Seigneur n'entend plus ses prières. J'ai beau crier, implorer au secours, se lamente Jérémie. Il tient ma prière enfermée. Pour le fidèle, il n'y a pas de prière plus désespérante que celle-ci. Prier et se confronter à l'insoutenable silence de Dieu. Adresser un appel d'urgence et lire sur son écran ou sur son téléphone portable « Votre correspondant est injoignable. » Injoignable. Le désespoir, l'épreuve, pardon, est extrême et le désespoir immense. Verset 18, « Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. » Il y a des moments dans ma vie aussi où j'ai oublié ce qu'était le bonheur. Et on marche en automate, hein? On fait les choses de manière mécanique. Il faut avancer. Mais on n'avance pas dans la paix, ni dans la joie, ni dans le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Fin du verset 20. Je sombre. Je coule. Exceptionnel, pas sûr. D'autres fidèles, eux aussi, ont connu après lui, pareille désespérance, et je suis certain que certains d'entre vous, peut-être sans aller jusqu'à cette extrémité, ont connu ce genre de situation. Ce qui est terrible, c'est que nous n'osons pas le dire. Nous n'osons pas l'avouer. De peur, de passer pour des hommes et des femmes sans foi, qui ne mettent plus leur confiance en Dieu. Plus leur confiance en Dieu. Mystère des arrêts divins. Dieu peut choisir de ne pas nous épargner et nous faire subir à nous, ses enfants, les lourdes conséquences des fautes commises par d'autres, mais dont il nous considère comme solidaires. Et par exemple, pour reprendre les propos de Jérémie, tenir un temps ou longtemps notre prière enfermée, parce que notre génération s'est détournée de lui et qu'il n'y a pas de raison évidente pour que nous échappions toujours au sort. Nous avons tout à l'heure évoqué les élections. Qu'en sortira-t-il? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Que veut-il pour la France? La responsabilité de l'Église est immense. Immense. Pas seulement au moment des élections. Mettre un bulletin dans l'urne, c'est pas difficile. Mais vivre notre vie en tant que lumière du monde est quelque chose de plus exigeant. J'ai bien le sentiment que j'ai alourdi un peu l'atmosphère, je vous ai prévenu, plombé peut-être un peu l'ambiance. Mais je pense qu'il est bon parfois d'être confronté à la réalité. Et peut-être de ne pas toujours surfer sur ce que j'appelle parfois une foi surjouée, où l'on fait semblant, où l'on se shoote à la louange, en oubliant la réalité du terrain, la réalité de ce que nous vivons, ou de ce que certains vivent. Faut-il en tirer la conclusion que Dieu nous a abandonnés? Non, bien sûr. Car pour qui à l'oreille du fidèle, le silence de Dieu n'est jamais absolu. Même si cette parole était la seule parole qui nous parvenait, et elle serait toujours perceptible. Et Jérémie a entendu cette parole d'Ésaïe. Même si les montagnes venaient à changer de place, même si les collines venaient à s'ébranler, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Jamais. Et l'engagement que j'ai pris d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Et c'est sans doute cette voix que Jérémie perçoit ici et qui provoque en lui un sursaut exemplaire. Et ce sera mon deuxième point. Verset 21, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Jérémie était submergé par le désespoir. Voilà qu'il reprend espoir, j'oserais dire qu'il se secoue même. Il entend ce murmure divin. « Non, je ne t'ai pas oublié. Comment le pourrais-je? J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. » Ce murmure divin, sa foi l'a détecté au cœur d'un silence d'autant plus insoutenable qu'il semblait absolu et définitif. C'est comme s'il se reprochait maintenant de s'être laissé aller un peu vite à la désolation et que, se reprenant vigoureusement, il s'imposait, plutôt que de garder le regard rivé sur le spectacle affligeant d'une déchéance pathétique, il décidait de lever les yeux, d'oublier sa misère et celle de son peuple, le temps, mais juste le temps de se remémorer ce qu'il sait de Dieu et de l'engagement que Dieu a exprimé pour être à ses côtés. Et que ces circonstances adverses avaient fini par lui voiler. Vous avez déjà remarqué cela. Dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les larmes, tout à coup le visage de Dieu se voile. Il devient moins net pour être défiguré par la douleur de l'épreuve que nous vivons. Les épreuves ont tout fait de nous accabler et de nous voiler le visage de Dieu. Voici, dit Jérémie, ce que je veux méditer pour reprendre espoir. Il y a là chez Jérémie un acte de volonté qui vaut, me semble-t-il, exemple pour nous. Les épreuves ont tout fait de nous accabler, au point qu'il nous arrive de verser dans une forme d'amnésie spirituelle, prompte à faire de nous des hommes et des femmes désabusés, abattus, voire désespérés. Et si, mes frères et sœurs, pour reprendre espoir, plutôt que de baisser les bras, de nous abandonner à la mélancolie, nous décidions, je dis bien nous décidions, comme Jérémie, de nous ressaisir et de lever les yeux, et avec Jérémie, de nous souvenir de ce que nous savons de Dieu et de sa personne en particulier. Il y a tout lieu de penser que notre propre métamorphose ressemblerait à celle du prophète, lequel aussitôt après s'être imposé un temps de contemplation, un temps de méditation, a retrouvé le véritable visage de Dieu et s'en est retrouvé comme requinqué, ragaillardi. Et la question se pose, qu'est-ce qu'il a relevé? Et c'est mon autre point, mon troisième point, une vision décisive. Quelle est cette vision décisive? Celle d'un Dieu incroyablement bon et fidèle. Et c'est une déclaration de foi que nous retrouvons au verset 21 et 20 à 24. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et les tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'environnement de Jérémie n'a pas changé. La désolation, elle est là, il la voit, la misère, il peut la contempler. Mais il décide de faire confiance en cette parole de Dieu. C'est une déclaration de foi au cœur même de la désespérance, au cœur même de la misère. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le mot bonté que retient Jérémie renvoie à la perfection de Dieu les plus lumineuses. Et elle inclut la loyauté avec celle et avec ceux avec lesquels il a conclu un pacte. Avez-vous fait alliance avec Dieu? Eh bien, si vous avez fait alliance avec Dieu, c'est-à-dire si vous vous êtes mis au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ, alors cette alliance est valable aussi pour vous. À la mesure où nous appartenons à ce peuple hautement privilégié auquel Dieu s'est lié par le sang de Jésus-Christ, alors nous pouvons compter sur cette fidélité. Ce que le prophète nous invite à nous remémorer est moins la loyauté en elle-même que ces manifestations répétées dans la vie de ses enfants. Et que nous disent ces manifestations? Eh bien, c'est qu'elles ne sont pas épuisées. Et ce témoignage est essentiel. De même que Jérémie a pu être décontenancé par le silence de Dieu, de même nous-mêmes, nous pouvons être déstabilisés par l'absence prolongée de preuves de la grâce de Dieu. Dieu ne s'est-il pas éloigné? Dieu nous aurait-il abandonné? Non, dit Jérémie, ses bontés ne sont pas épuisées. Ses bontés ne peuvent pas s'épuiser. Elles sont par essence même inépuisables. Faites preuve d'un peu de patience et vous en verrez bientôt les marques rassurantes. Oui, mes amis, patientons. C'est difficile de patienter lorsque nous sommes dans l'épreuve. Il se peut que nous peinions ce matin à voir les marques de sa grâce. Nous avons beau scruter notre univers, nos circonstances, et que nous en soyons à nous demander où est mon Dieu. Ces marques sont là, elles sont présentes. Et si nous ne les voyons pas aujourd'hui, et c'est possible, elles feront le sujet de notre joie demain. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, pas plus que ces bontés ne prennent fin. Ces bontés ne sont pas épuisées. Et l'accent est mis sur l'amour dont Dieu entoure toutes celles et ceux avec qui il s'est lié d'une manière irrévocable. Un amour unique, tendre et riche en bonté, qui ne s'irrite pas facilement. Et j'aime bien cette expression qui, dans l'hébreu, en fait, est très imagée. Elle montre que Dieu a un nez long. Et si un Dieu a un nez long, la moutarde met du temps à lui monter au nez. Il fait preuve de compassion. Et surtout, ce qu'il aime le plus, ce n'est pas à punir, mais à faire grâce. Il aime à faire preuve de compassion. Aime à oublier nos fautes. Mais le mot revient au pluriel. C'est par ces manifestations infiniment variées que nous percevrons cet amour. Ce qu'il nous faut nous imposer de faire régulièrement aujourd'hui, c'est de répéter dans nos vies les marques discrètes, le plus souvent, mais si précieuses pour ceux dont le regard a été aiguisé par la foi. Les anciens se souviennent de ce cantique, cantent les bienfaits de Dieu. Nous sommes, comme l'a dit Jonathan, par nature des râleurs. Des râleurs. C'est le général de Gaulle qui disait, quand il y avait 50 millions d'habitants en France, il y a 50 millions d'habitants, il y a 50 millions de sujets en France, sans compter les sujets de mécontentement. Et que nous dit Jérémie, justement, de ces expressions de l'amour? Qu'elles ne prennent pas fin. Littéralement, qu'elles n'ont pas de limites, nos limites. Qu'elles sont éternelles, éternelles. C'est-à-dire, en fait, qui est un crédit illimité. Vous dites aux jeunes, vous achetez un forfait téléphone, mais nos limites. Vous allez voir leur visage, là, resplendir. Vous leur donnez votre carte de crédit, vous dites nos limites. Hein. Vous allez voir ce que ça fait. Eh bien, c'est ainsi pour l'amour de Dieu. Elles sont éternelles, elles sont illimitées. Prodigieuse assurance. Cet amour qui nous a donné d'entrevoir nous montre à la croix, où il a manifesté son amour de manière démesurée. Et cet amour ne saurait faiblir, encore moins disparaître. Ni les grandes eaux, ni les fleuves ne l'éteindront jamais. Et Jérémie est bien placé pour le savoir. Jérémie, à qui Dieu a dit un jour, Jérémie 31:3, je vous invite à le souligner dans votre Bible, ou en faire un texte que vous affichez sur votre frigo. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Plaise à Dieu qu'il nous arrive, dans des moments de doute, d'angoisse, que nous fassions le bon choix, lever les yeux, et dans le calme et la confiance, méditer ces vérités, et comme le prophète, reprendre espoir. Dieu nous aime. Elle se renouvelle chaque matin. Je terminerai par ce point. Les marques de la bonté, de la loyauté, de l'amour de Dieu se renouvellent chaque matin. Comme le soleil qui ne manque pas de s'élever dans le ciel, ses bontés surgissent à nouveau. Personne ne se lève le matin aux aurores pour savoir si le ciel se lève bien. On sait qu'il va se lever, n'est-ce pas ? Qu'il va faire jour. De la même manière, nous devons avoir cette assurance que les bontés de l'Éternel, chaque matin, se renouvellent. Que celui qui a des yeux regarde bien. Et avant lui, Esaïe l'avait compris qui priait. Éternel, fais preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. Mais il y a ici plus qu'une mise en valeur du retour attendu des manifestations de la bonté et de la loyauté. Il y a la parfaite adéquation aux besoins quotidiens de ceux qu'il chérit. Ces grâces ne sont jamais définitivement suffisantes. Jamais définitivement suffisantes. Il les renouvelle en fonction à la fois des défis qui s'imposent à nous, jour après jour, et de notre dépendance de lui. D'où l'importance pour nous de retourner à lui chaque matin, d'être en quelque sorte des quémandeurs, la main tendue chaque matin, mais avec cette assurance que nous repartirons riches, riches de ressources toutes fraîches, riches aussi de richesses toujours neuves qui nous permettront de vivre le jour qui vient. Et celui-là seulement, c'est-à-dire le jour là, maintenant seulement, et qui nous permettront de glorifier Dieu. Nous ne pouvons pas faire des provisions pour tout le temps. Il y a des chrétiens qui viennent le dimanche, ils disent « Bon, j'ai été nourri le dimanche, c'est bon, je reviens dimanche prochain. » Vous savez, ça me fait penser à la manne dans le désert. Vous ne pouvez pas faire de provisions pour le lendemain. On devait venir chaque matin et ramasser la manne chaque matin. Chaque matin. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu ? Nous contentons-nous du dimanche matin ? Et éventuellement d'une rencontre de maison ? Ou bien est-ce que chaque matin, nous venons à Dieu, la main tendue en tant que quémandeur, pour recevoir de lui ce dont nous avons besoin pour affronter nos journées ? Et ma dernière conclusion, sa bonté s'élève jusqu'au ciel. Que ta fidélité est grande, nous dit Jérémie. Une vérité attestée et comme redécouverte au moment du désespoir, au moment où le désespoir l'a gagné et menace de l'engloutir. Une vérité à laquelle nous pouvons nous accrocher, nous agripper, nous cramponner. Chaque fois que nous sommes secoués par une tempête intérieure ou extérieure et que nous nous heurtons au silence de Dieu, et que comme le prophète, nous commençons à douter, à sombrer. Dieu est fidèle. Et c'est à cette fidélité de Dieu, imprescriptible, indéfectible, et à elle seule, que nous devons toujours espérer, encore et toujours. Alors que tout serait ténèbre autour de nous, et qu'aucune lueur ne paraîtrait, c'est à cette fidélité toujours jeune que nous devons croire que le meilleur est à venir. Et comme Jérémie, toujours reprendre espoir. Et je donnerai la parole à un homme que nous connaissons tous, enfin je l'espère en tout cas, David, qui dit au psaume 30, verset 6, « Au soir, la visite des larmes, au matin, les cris de joie. » Amen. Je vous invite à un temps de silence. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous aura à cœur d'élever sa prière à Dieu qui puisse le faire. Et je laisserai ensuite la parole au président. Seigneur notre Dieu, tu nous connais. Tu connais parfaitement les chemins que nous empruntons. Et tu sais qu'ils ne sont pas toujours lumineux, enveloppés de toute la clarté, du bonheur, de la joie et de la victoire. Tu sais, Seigneur, les combats que chacun mène, difficiles, âpres. Tu connais nos tentations parfois de lâcher prise, de baisser les bras. Tu vois, Seigneur, toutes ces choses. Je te prie, nous te prions pour que dans ces vallées sombres, nous puissions nous remémorer l'immensité de ton amour à la croix et nous rappeler ces paroles affirmées avec force. Rien, mais absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'alliance que tu as faite avec nous n'est pas une alliance de pacotille. Elle est une alliance fondée sur ta personne, sur ta puissance, sur l'immensité de ton amour, sur l'immensité de ta fidélité. Elle repose sur ton sacrifice à la croix, où tu as donné tout, tout de ta personne. Que ces, Seigneur, vérités nous habitent aux moments les plus sombres, nous rattrape alors que nous sombrons, nous relève alors que nous n'y croyons plus. Seigneur, aide-nous à compter tes bienfaits, à redessiner en méditant ta parole le véritable contour de ton visage, visage de grâce et de paix, visage d'amour insoupçonné, aussi profond que les océans. Nous te le demandons en ton nom. Amen.